Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. La communication en famille, c'est pas toujours évident. Clairement, je veux dire, déjà, on n'a pas forcément de formation à la gestion du conflit dans la vie, au travail. En famille, souvent nos exemples, ça a été de gueuler, et puis ça se termine en « tu te tais, j'ai raison », et puis basta. C'est pas facile, et nous sommes, parents, quand on réfléchit un peu à ces sujets, face justement à des mécanismes qui sont ancrés de manière très profonde et qui sont ancrés pas que dans notre famille, pas que dans notre histoire, mais aussi dans la société. Et il y a des outils qui existent. Il y a des outils, et parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Alors, j'ai envie d'être, comme toujours, très transparent avec vous, soyons très clairs. Moi, la CNV, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 10-12 ans, et clairement, je pense qu'il faut être très clair sur ça. C'est un vrai apport, en tout cas, moi, dans ma façon de communiquer, c'était un vrai apport, mais le sujet n'est absolument pas de venir polisser toutes nos interactions, toutes nos relations. L'idée, c'est juste de trouver des moyens de communication qui soient avant tout efficaces pour aller vers des solutions communes par rapport aux autres personnes. Donc ça, pour moi, c'est l'utilisation que moi j'en fais, et je ne suis pas du tout en train en permanence de réfléchir en mode CNV. Peut-être qu'il y en a qui le font, et c'est très bien. Mais voilà, je voulais juste amener ça comme un outil qu'on peut avoir dans sa boîte à outils et qu'on peut sortir le cas échéant, tout simplement. Je mets en garde aussi sur le sujet, comme dans tous les éléments où il y a des courants, il peut y avoir des dérives. Je vous invite à écouter le podcast Méta de choc sur le sujet. Néanmoins, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un outil qui me sert, qui m'a servi dans ma vie professionnelle, dans la vie associative et bien sûr dans ma vie personnelle et familiale tous les jours. Donc je me trouvais ça intéressant d'en parler. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour utiliser la CNV, la fameuse communication non violente, en famille, notamment en matière éducative? Mon invitée du jour est Caroline Deliry. Elle est formatrice certifiée en CNV, bien entendu. Elle travaille avec les enfants, dans des écoles, dans des collèges. Elle accompagne des équipes d'associations, des mairies, des crèches, des écoles d'infirmières, des étudiants d'université. Elle œuvre aussi beaucoup pour l'association Déclic, une association pour la CNV au service de l'éducation, afin de soutenir la base de confiance intérieure des adultes et des enfants, favoriser l'émergence des potentialités et la coopération dans le domaine de l'éducation. Et oui, parce que c'est bien ça le sujet en fait. On est là tout le temps en train de parler de coopération, la place d'obéissance, mais comment est-ce qu'on met ça en œuvre, notamment quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas les codes dès le départ, quand on n'a pas été éduqué comme ça en fait? Eh bien, c'est le sujet que nous allons essayer de traiter, d'abord en balayant les grandes bases de la CNV, et ensuite en s'intéressant à des cas pratiques, à des petites situations que je vais évoquer, et surtout bien comprendre les mécanismes qui se mettent en œuvre. Du coup, ma première question pour Caroline Deligny, c'est quoi l'éducation non violente pour tous les gens qui n'en savent rien? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Donc la communication non violente, effectivement, c'est devenu un peu à la mode, entre guillemets, ces dernières années, on en parle beaucoup. La communication non violente, je dirais que c'est un cheminement dans la relation. Vraiment, l'axe principal de la communication non violente, c'est la relation avec soi-même et avec les autres. Alors bien sûr, ça passe par des mots, donc on appelle ça communication parce qu'on a l'habitude, nous, être de langage, d'utiliser des mots. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de vivre, voilà, dans ma relation avec les autres et quand je suis parent, en tant que parent, avec mes enfants, avec mon compagnon. Et cette communication non violente, elle nous donne par contre des axes et des outils concrets pour arriver à le faire. Parce qu'il y a plein de voies qui visent à vivre de la paix, de la compréhension, de la coopération dans les relations, mais on ne sait pas toujours comment bien faire. Et donc là, c'est aussi des outils très concrets qui nous permettent de se dire « Ok, là, quand je vois que ça part un peu en cacahuète, ça ne va pas vraiment dans le sens que j'ai envie d'aller, ok, comment est-ce que je peux revenir à moi et comment je peux utiliser une certaine manière de me connecter à moi et à l'autre qui va m'aider à être en lien. »
Et donc, comment on fait? Parce que, dit comme ça, si vous voulez, moi en tant que parent, quand je vois que ma fille, quand je suis fatigué, Enfin bref, ou tout simplement parce que c'est compliqué, hein, quand les moments sont compliqués avec notre enfant ou nos enfants, me reconnecter à moi, ouais. Mais en fait, le moi, il peut être bien loin et ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a des bases comme ça de raisonnement à connaître, des outils qui existent ?
Ouais, alors les bases de la communication. Alors, je précise que c'est aussi un processus qui a été créé par Marshall Rosenberg. Voilà, je l'honore quand même parce que c'est lui qui a créé ça, donc psychologue clinicien américain aux États-Unis, qui s'était inspiré évidemment de plein d'autres mouvements, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Et donc, il a créé ce processus qui est bien spécifique, parce qu'on peut lire plein de choses qui sont communication bienveillante et plein d'autres mots, voilà, mais communication non-violente, ça fait référence à ce processus-là. Et effectivement, il y a un processus qui est assez précis. Si vous voulez, c'est un petit peu, comme dirait une de mes collègues, c'est un peu la colonne vertébrale. C'est-à-dire, au départ, j'ai une intention. Si j'ai une intention d'être dans une communication non-violente avec mon enfant, par exemple, voilà, je sais que j'ai envie à ce moment-là qu'on arrive à se comprendre. J'ai envie qu'il y ait une forme de respect mutuel, d'écoute mutuelle. Voilà, ça, c'est mon intention. Et puis, comme vous dites, il y a des moments, bah, j'ai beau avoir une magnifique intention, mais je n'y arrive pas. Et j'aimerais bien rembobiner ce qui est sorti de ma bouche, mais voilà, c'est trop tard. Donc, le processus de la CNV, très précis, c'est j'essaye de vraiment, quand je parle à quelqu'un, j'essaie de lui partager ce que je vois et que j'ai envie de lui dire, ce que j'entends, mais non pas nos habitudes de reproches, de critiques, de comparaisons, de leçons de morale. Enfin voilà, tous les trucs qu'on sait très très bien faire, on n'a pas besoin d'apprendre, mais qui sont rarement aidants pour la relation. Donc j'essaie plutôt de parler vraiment de quelque chose de concret qui se passe à un moment donné, quelque chose qui m'a plu ou qui ne m'a pas plu, et je vais parler de moi. Je vais parler de moi, ça veut dire que je vais dire ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus précisément, bah, c'est quoi mon émotion. Et cette émotion, surtout, je vais en prendre la responsabilité, et non pas dire « je me sens comme ça parce que tu ». Non, non, je vais prendre la responsabilité de mon émotion, et je vais apprendre petit à petit, en fait, à mettre vraiment de la clarté intérieure sur « mais finalement, quand j'ai cette émotion-là, si c'est pas à cause de l'autre, ben c'est à cause de quoi ?» Et en fait, c'est en lien avec nos besoins. Donc ça, c'est vraiment la base de la communication non-violente, c'est de réapprendre à identifier nos besoins. Donc les besoins humains, on a tous les mêmes sur la Terre, et qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune. Donc il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas non plus 150 000. Hein, voilà, on va dire des besoins humains principaux, ce sont les besoins de tous les besoins qui sont autour de la relation, hein, voilà, tout ce qui a trait à la relation humaine. Tout ce qui a trait à la liberté, à l'autonomie, à l'épanouissement, à la créativité, à la coopération, et puis bien sûr tout ce qui est des besoins de base, hein, évidemment, hein, besoin de toutes les formes de sécurité dont on a besoin pour vivre. Voilà, tous ces besoins-là, c'est notre fond d'humanité, et en fait, on réalise qu'à chaque moment qu'on fait quelque chose, ben, on essaie de nourrir un besoin. Hein, vous voyez, avant de vous parler, j'ai froid, ah tiens, j'ai mis un petit plaid, j'ai pas réfléchi. Et à ce moment-là, j'ai besoin de chaleur. Donc, je fais quelque chose pour ça. Et en fait, au quotidien, on est en train de faire ça, sauf qu'on n'a pas la conscience qu'on est en train de faire ça. Et donc là, on va réapprendre à parler à l'autre à partir de ça. Et donc, on va simplement lui dire, bah, voilà ce qui se passe pour moi. Et puis aussi, on va avoir envie d'entendre, bah, qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Et puis, bah, ensemble, on va peut-être essayer de trouver une solution commune qui puisse nous respecter chacun dans nos besoins. En gros, c'est un petit peu ça le processus que classiquement, quand on va lire un article sur la communication non-violente, on va lire... observation, sentiment, besoin, demande. Voilà, souvent, c'est ça qu'on lit. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer un peu plus subtilement. Mais si ce n'est pas relié à l'intention de base, et si on n'a pas appris vraiment à prendre le temps d'être chez soi et prendre le temps d'écouter vraiment l'autre, ça ne marche pas. Ça veut dire que si je fais juste à observation, sentiment, besoin, demande, bah, je suis un petit peu dans quelque chose de robotisé, voire qui peut passer un peu pour la manipulation. Voilà. Donc, c'est quand même un processus qui demande du temps.
J'avais entendu parler d'un bonhomme OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, qui est souvent représenté pour s'en rappeler, où en fait, les lettres sont utilisées pour faire un petit bonhomme, quoi.
Mais ça, c'est un mémo. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, l'histoire de OSBD, c'est comme notre colonne vertébrale, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Mais quand je marche dans la rue, ça ne se voit pas, en fait. Vous voyez, on ne voit pas ma colonne vertébrale, heureusement. Et là, c'est la même chose, en fait. L'idée, c'est progressivement que ça redevienne quelque chose qui soit un peu naturel. Au fur et à mesure, ça devient quelque chose de normal parce qu'on l'a désappris quand on était enfant, souvent en tout cas, on a désappris à parler de ce qui est vivant chez nous. On a plutôt appris à utiliser notre pensée qui interprète beaucoup, qui évalue, qui porte des jugements, des diagnostics sur les autres. Ça, on a très bien appris à le faire. Donc là, on réapprend à revenir chez nous. Et le petit bonhomme OSBD, ben, c'est un mémo qui est quand même pratique pour se rappeler « Ah, comment on fait ?»
Vous avez évoqué le fait de reconnaître son émotion et puis de dire ce qu'on ressent, ce que ça nous fait. D'un point de vue très pratico-pratique, ok, donc il y a un prérequis qui est de savoir quelles sont les émotions qu'on ressent et d'être capable de les identifier, c'est ça ?
Ouais, ça va être le début. Effectivement, ça peut être, parfois, pour certaines personnes, ça va être déjà de se reconnecter à son ressenti. Et on peut avoir oublié comment on fait, parce que j'ai aucun doute que tous les êtres humains qui viennent au monde, normalement, savent faire, ressentent quelque chose. En tout cas, les bébés, ils ont l'air très au clair. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous tiennent au courant. Et puis, c'est vrai qu'on a pu être coupé de ça parce que nous venons d'un système éducatif qui peut nous avoir dit des choses comme c'est mieux d'écouter les autres que s'écouter soi, il ne faut pas trop s'écouter, il faut être fort, arrête de pleurer, arrête de faire un caprice, mais non, tu n'as pas froid, mais si tu as froid, mets ton manteau. Mais non, tu n'as pas mal. Vous voyez, toutes ces choses-là que même en tant que parent, on peut reproduire par automatisme. Hein. Voilà, évidemment. Et même quand on fait de la communication non-violente depuis longtemps, parfois, ça nous échappe. Mais toutes ces choses-là, elles peuvent nous avoir coupés de notre ressenti corporel et donc de nos émotions, puisque ça passe par le corps.
Et comment on se reconnecte à tout ça ?
Alors, si on ne sait pas du tout faire ça, ça veut dire qu'on fait un choix à un moment donné, progressivement, des manières qu'on veut. La communication non-violente est une manière de se reconnecter à ses émotions, parce qu'à force de faire ce chemin, de vouloir ressentir ce qu'on ressent, il y a un moment, ça revient. De toute façon, il y a un moment, ça revient. Et puis après, il y a des personnes qui vont choisir d'autres moyens, qui vont faire des choses corporelles. Voilà, chacun après sa pratique. Je pense qu'à partir du moment où on se pose comme volonté de se dire « Ah mais tiens, j'ai envie d'être plus proche de mon ressenti », progressivement, ça va revenir. C'est-à-dire que chaque jour, on va réapprendre à se poser la question déjà. Juste ça, de se poser la question de temps en temps dans la journée. Tiens, là tout de suite, où est-ce que j'en suis ? Comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Ah là, je suis en train de courir dans tous les sens. Ah ok. Ah tiens, là j'ai commencé à crier, à m'énerver. Ouh là là, pourquoi la machine s'est emballée ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et petit à petit, ça revient.
Est-ce qu'une piste, ça peut être aussi de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis dans différents états émotionnel, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à pas se rendre compte de ce qui se passe et on réagit pas tous de la même manière aux émotions. Par exemple, une personne triste peut avoir le cœur qui se serre, ça c'est comme ça qu'on l'imagine, mais ça peut être la gorge, ça peut être le ventre, ça peut être plein de choses. Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de revenir à ces sensations corporelles, c'est vraiment aidant. Au début, c'est pas simple pour tout le monde, donc c'est pas non plus de se mettre la pression en se disant « Oh là là, mais moi je ressens rien dans mon corps, donc en fait je peux pas être connectée à mes émotions ». Non, c'est pas grave. Chacun essaie de trouver sa voie. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ça commence par le corps et que c'est vraiment là où, quand je suis en lien avec ce qui se passe dans mon corps, il y a tout de suite quelque chose après qui va m'aider à reconnaître mon émotion ou à reconnaître mon besoin, parce que les besoins, c'est aussi quelque chose qu'on sent de l'intérieur. Donc le corps, en tout cas, normalement, c'est un bon indicateur.
Ça me parle beaucoup ce que vous dites, surtout qu'il y a aussi des sujets de genre vis-à-vis des émotions. Je pense c'est important de l'évoquer. Des études ont démontré qu'on attribue des émotions différentes aux enfants selon qu'on les reconnaît en tant que garçon ou fille. Par exemple, un bébé qui pleure, ça me rappelle cette étude de 76, où un bébé qui pleure, la même photo, si on lui met une layette bleue en disant que c'est un garçon, on va dire qu'il pleure de colère. Et si on met rose en disant que c'est une fille, on va dire qu'elle pleure de tristesse. Et on se construit aussi avec ça. Je trouve ça toujours très intéressant. Les adultes avec lesquels je peux travailler et que je rencontre, souvent on se retrouve avec des garçons qui sont tout le temps en colère, qui n'ont pas de gradation en fait, avec des hommes qui sont tout le temps en colère, et des femmes qui sont tout le temps en tristesse. Il y a même des émotions qu'on ne s'autorise pas à ressentir, comme la colère chez les femmes qui n'est pas forcément autorisée, et comme la tristesse chez les garçons qui n'est pas forcément autorisée. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi au niveau du genre ? Et est-ce que vous avez des petites astuces pour essayer de se débloquer ces constructions-là ?
Alors, c'est sûr que les croyances qu'on a reçues dans notre éducation, et qui sont des croyances souvent inconscientes, pour la plupart, parce que c'est des choses qui sont transmises pas forcément toujours de manière explicite. Souvent, c'est implicite dans notre environnement proche et plus large aussi, parce que ce que vous partagez là, ça se partage quand même globalement dans la société française. Et en même temps, ça peut être différent d'une famille à une autre. Mais en tout cas, tout ça, ces croyances-là, elles sont imprégnées à l'intérieur de nous. Et donc, c'est certain que quand on commence ce cheminement, on va se rendre compte de ce genre de choses. Et donc, oui, effectivement, une fille, on va davantage tolérer qu'elle pleure, on va dire globalement, que chez un garçon. Et on va davantage supporter la colère chez un garçon que chez une fille. Et voilà, ça c'est certain que c'est des choses qu'on peut observer. Donc nous, après, comment on fait avec ça? Étant donné que notre axe, c'est vraiment de dire que chaque personne, elle est bienvenue comme elle est et que chaque émotion a besoin d'être entendue. Donc à partir de là, ce qui vient. Et plus on ouvre l'accès à soi-même, en fait, hein, parce que du coup, c'est un cheminement qui nous fait forcément prendre beaucoup de conscience sur nous-mêmes, plus on ouvre l'accès et plus on va réaliser des choses. Donc, ça arrive tout seul à un moment donné et on va avoir des choses de notre histoire, de notre enfance qui vont revenir et on va faire des liens. Et puis, petit à petit, on va s'autoriser, en fait. On va s'autoriser plus de choses qu'avant. Et puis, l'axe des croyances, ça, c'est aussi... c'est un stage d'approfondissement quand on fait de la communication non-violente et qu'on a les bases. On peut faire un stage sur les croyances limitantes. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'adore ce stage parce que je trouve ça incroyable de réaliser tout ce qui peut nous contraindre sans qu'on en ait conscience dans notre chemin. Et ça ne veut pas dire que les croyances sont mauvaises. Pas du tout. Parce qu'on a pu avoir des croyances qu'on a héritées de notre famille qui nous portent. On a pu... et puis, elles ont pu nous porter à un moment donné et plus nous porter après. Ou l'inverse. Enfin, voilà, hein, je veux dire, c'est OK. Mais c'est juste que si on a envie de se déployer, c'est vrai que c'est intéressant d'aller visiter ça. Et quand on devient parent, c'est aussi très intéressant. Moi, j'aime bien voir avec les parents quand on a des valeurs éducatives. Voilà, notre enfant vient au monde et puis au fur et à mesure, on a des valeurs éducatives avec des idées sur les choses qui se font et les choses qui ne se font pas. Et je trouve ça très intéressant d'aller regarder quand j'ai ça. Mais en fait... Est-ce que c'est à moi? Est-ce que moi, je pense vraiment que ça, c'est une valeur importante? Ou est-ce que, en fait, je le répète parce que je l'ai reçu? Ok, et là, je le répète, je l'ai reçu, je le répète. Est-ce que je veux le garder? Mais super. Ou est-ce que je n'ai pas envie de le garder, en fait? Parce que finalement, ce n'est pas ça, ma vision. Et là, on retrouve cet espace vraiment qui est au cœur de la communication non-violente, qui est comment est-ce que je peux retrouver le plus possible un espace de choix? Un espace de conscience où je choisis qui j'ai envie d'être aujourd'hui, quel parent j'ai envie d'être, quel conjoint j'ai envie d'être, etc. etc.
Je trouve ça extrêmement intéressant, surtout que bon, moi, en tant que praticien PNL, les croyances limitantes, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est extrêmement important d'aller interroger ça. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas, ce que je comprends et ce que je retiens vraiment énormément dans ce que vous me dites, et c'est une notion qui est pour moi essentielle parce que c'est quelque chose que je soutiens aussi sur les sujets d'accompagnement d'enfants et d'instruction, c'est l'idée qu'on est dans un processus. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, il n'y a pas tant à attendre de résultats, puisque le processus est quasi permanent, en fait. Vous me dites si je me trompe, hein. Et c'est vrai que par rapport à une société où on a tendance à dire « si je fais ça, je récolte ça », c'est toujours des modes de pensée qui demandent un petit pas de côté, je trouve, pour bien comprendre qu'en fait, on ne rentre pas dans un processus ou un chemin. C'est un chemin dont on ne voit pas le bout, en fait. Et en même temps, c'est aussi ce qui en fait la beauté, c'est que tous les jours, on peut travailler et avancer sur ce chemin, quoi. Est-ce que ça, c'est une image qui vous convient?
Oui, carrément, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment, à un moment donné, je décide que, voilà, moi, par exemple, ma préférence, mon rêve, c'est de me dire que les êtres humains, on fait partie d'une même humanité, même quand c'est compliqué, même quand il se passe des choses qu'on peut trouver horribles, et que j'ai envie de me dire que chaque être humain est en capacité d'être relié à partir de son cœur, d'être dans un espace de partage, de paix, même s'il y a des moments où on est coupé de ça, hein, n'importe quel humain, on peut être coupé de cet endroit-là, et que moi, j'ai envie de voir les humains de cette manière-là, et que j'ai envie, en tant que parent, que les enfants que j'élève, eh ben, ce soit des enfants comme ça que je porte pour le monde de demain, plutôt que de porter des enfants qui vont être dans des rapports de force et de conflits et qui vont entretenir la violence. Voilà, moi, j'ai envie d'aller vers ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des jours, j'y arrive pas, c'est sûr. Mais ça me porte et ça me donne envie de continuer d'essayer tous les jours, avec l'humilité de se dire, eh ben oui, quand on fait ce choix-là, peut-être qu'il faut des générations pour arriver à quelque chose. Mais c'est comme quand on fait le choix de l'écologie, on sait que bah, nous, on va le faire, mais on ne sait pas exactement comment ça va, à quel moment ça va fleurir comme on aimerait. Donc c'est vraiment ça, c'est un processus que je décide chaque jour, ou pas, peut-être il y a des jours où je fais des pauses, mais voilà, c'est un processus qui dure toute la vie.
Alors, venons-en maintenant à ce sujet de la parentalité, parce que, ok, on se dit ça, je me reconnecte à mes émotions, il y a un processus, voilà. J'imagine que tout ça, ça demande du temps, surtout quand on découvre un peu le truc. Maintenant, en parentalité, comment est-ce que ça se traduit? Parce qu'en parentalité, du coup, j'allais dire face à mon enfant, mais je vais plutôt dire avec mon enfant, parce que j'aime pas trop cette image de face qui nous oppose, alors qu'on a besoin de relations plutôt qu'autre chose à ce moment-là. Mais dans le quotidien, imaginons sans crise, parce qu'on parle toujours aussi des moments difficiles. Déjà, est-ce que la CNV, ça ne sert qu'à sortir des moments de crise? Est-ce que ça ne sert qu'à éviter potentiellement des moments de crise? Ou est-ce que, voilà, juste dans la communication du quotidien, c'est quelque chose qui peut être utile?
Oui, ça sert en prévention et gestion des conflits, ça c'est sûr, voilà. Mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi à, petit à petit, développer une forme de qualité de relation, c'est-à-dire surtout une qualité d'écoute. C'est-à-dire, ça apporte aussi ce truc d'avoir une forme d'attention à l'autre, de vraiment avoir envie de comprendre, tiens, qu'est-ce que l'autre y vit? C'est qui mon enfant au-delà de mon enfant idéalisé voilà, que j'ai eu, de l'enfant oui. Parfait que j'ai imaginé ou qu'on a projeté sur moi, que je reprojette sur lui. Voilà, c'est qui vraiment cette personne? Voilà, vraiment envie de la connaître, de savoir comment elle fonctionne. Envie de lui partager aussi moi qui je suis vraiment. Donc là, c'est vraiment sur cette écoute, cette attention. Et puis après, ben, ça va prévenir les conflits parce que ben, quand on est dans une écoute empathique l'un de l'autre et aussi dans une honnêteté, hein, parce que c'est aussi ça, parfois ça va être aussi dire des choses qui font pas plaisir mais qui sont honnêtes avec ce qu'on vit, bah, ça crée de la confiance dans la relation et ça crée de l'espace, ce qui fait que forcément bah, du coup les conflits ils peuvent survenir moins souvent quand on essaie de se prendre en compte nos besoins mutuels. Il y a plus de chances qu'il y ait moins de conflits. Et puis évidemment, au moment du conflit, bah, ça peut nous aider, ne serait-ce qu'au tout début déjà, quand je sens que ça commence à monter, que je perds mes moyens et que je ne suis pas du tout en train de dire ce que j'aimerais dire ou de faire ce que j'aimerais faire. Et si j'arrive déjà à faire pause et à sortir, me calmer 5 minutes, mais c'est déjà extraordinaire. Ça évite de s'emballer hein, dans les et monter dans les tours et après, on met un temps infini à redescendre. Donc déjà, ça, c'est déjà super. Et puis bah, après, au fur et à mesure qu'on devient, j'ai envie de dire, entraîné, eh ben, on arrive aussi à dénouer plus facilement voilà, certains moments de tension. Et puis, ça sert aussi à dire ce qu'on aime aussi de l'autre. Hein, la communication non-violente, quand on est dans une communication honnête, bah, ça va être de dire ce qui ne nous convient pas, mais c'est aussi d'apprendre à dire ce qui nous convient.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
À pouvoir dire à l'autre les choses qui fait qu'on aime et qui nous rendent la vie plus belle. Vous voyez, là où d'habitude, on va souvent être dans des merci. On va juste dire merci, mais on ne va pas vraiment expliciter notre merci. Ou on va être dans des compliments. Ah, t'es super! Là, on va apprendre aussi à se dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait que ça me rend joyeux? Et mais j'ai envie de le dire à l'autre, parce que là, il a fait quelque chose qui me rend joyeux et j'ai envie qu'il le sache. Ou il y a quelque chose chez lui qui m'inspire et j'ai envie de lui dire que là, il fait des choses qui m'inspirent. Donc, c'est voilà, c'est pas que pour les choses qui ne vont pas bien, c'est aussi pour le reste. C'est comment est-ce qu'on est en lien de manière un peu profonde, j'ai envie de dire, même si c'est pas à chaque instant, hein, parce que c'est aussi la légèreté, c'est aussi très chouette. Mais...
C'est le sujet, en fait, c'est est-ce que... Parce que je connais bien les remarques qu'on peut entendre derrière de manière négative, et vous devez aussi bien les connaître mieux que moi, c'est « Ah oui, mais voilà, les relations sont dénaturées, ça va pas ». Alors, moi, je vais reprendre les choses telles que moi je les vois vis-à-vis de ce genre d'outils, c'est que ce sont des outils. Ça aide soit à progresser dans un processus qu'on peut avoir qui peut être permanent, mais qui ne veut pas dire qu'on doit conditionner nos comportements en permanence, mais ça peut aussi être des outils en fait, qu'on va sortir parce qu'on s'aperçoit bien que bah, des fois, les zones de conflit ou les zones d'échange dans nos relations, ça ne va pas. Et que eh bien, comme on irait attraper un tournevis pour visser une vis, eh bien, on va aller chercher cet outil pour régler la situation. Ça ne veut pas dire qu'on a notre tournevis à la main en permanence. Ça veut juste dire que là, il y a besoin de visser un truc, on va chercher le tournevis. Voilà, ça, c'est l'image que moi, j'ai de ça. Et que je transpose aussi à la parentalité, ça ne veut pas dire qu'à un moment, on doit être en permanence en alerte, en mode, parce que c'est aussi une source de pression quand même. Si on se dit, mon Dieu, mais à un moment, j'ai pas été dans la CNV avec mon enfant, c'est quelque chose que vous entendez, ça, que vous rencontrez, j'ai pas été dans la CNV avec mon enfant, je suis une mère ou un père horrible, ça ne va pas du tout.
Mais en fait, c'est la problématique de notre conditionnement de base qui est duel. En tout cas, là, chez nous, les Occidentaux. Et donc, comme j'ai été éduquée à vraiment croire qu'il y a des choses bien et des choses mal, des choses bonnes et des choses pas bonnes, des gens qui ont raison, des gens qui ont tort, ok, vous voyez, bon, gagnant, perdant, etc., ça fait que quand j'apprends la communication non violente ou la parentalité positive, enfin, tous ces mouvements-là, eh ben, y a quelque chose qui croit que ce nouveau truc que j'ai appris, c'est bien, et ce que je faisais avant, c'est mal. Et donc, je reproduis ce truc. Et donc, effectivement, après, il y a... Oh, il faudrait que je sois parfait et que je parle toujours d'une certaine manière. Et après, il y a le gros revers, du coup, qui est la culpabilité. Et donc, ça, c'est un poison. Et après, c'est comme ça qu'on lit des articles où on dit, oui, l'éducation positive, c'est laxiste. Alors, si on croit que la communication non violente, par exemple, ça veut dire qu'on ne va jamais poser de limite à un enfant, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'était que la communication non violente. Parce que là, c'est pareil, c'est pas duel. Oui, bien sûr, à des moments, on pose des limites, mais la question, c'est comment est-ce que je pose les limites? Et en tant que parent, ben, y a des moments où je vais faire des choses qui ne vont pas faire plaisir à mon enfant. Il y a des moments où je ne vais pas être parfait, et c'est parfait. Donc vraiment, ce truc de rentrer dans la culpabilité, je crois que c'est tellement ancré en nous que ça revient systématiquement. Donc, c'est vraiment avoir à l'esprit que ça n'est pas duel. Il n'y a pas assez bien, c'est pas bien. Il y a des moments où je vis ce que j'ai envie de vivre. Il y a des moments où je vis moins ce que j'ai envie de vivre. Et bien, ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Et on n'est pas sans arrêt en train de se demander comment on parle. Si, au début, soyons honnêtes, si demain, vous apprenez le piano, au début, quand vous allez jouer, vous allez faire attention à toutes vos notes. Vous voyez, moi, je ne joue pas du piano, mais j'imagine, je me dis, oh là là, ça doit être galère au début. Ben oui. Au début, c'est pas très fluide. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça devient fluide. Mais donc, est-ce que je veux savoir jouer du piano de manière fluide ou pas? C'est ça la question.
Oui, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est marrant parce que vous n'êtes pas la première à faire une comparaison avec la musique dans ce podcast. Et je trouve ça très intéressant, en effet, de rappeler que, ben, en fait, on est en apprentissage d'une compétence, concrètement. Et que nous, en management, en entreprise, il y avait différents niveaux d'apprentissage. Mais là, on parle des difficultés, mais il y a aussi le moment où on va réussir. Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner aux personnes qui nous écoutent. C'est que les moments où, par exemple, on va réussir à appliquer ce qu'on s'est dit comme on voulait l'appliquer, on va se sentir aussi tout puissant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque début d'un apprentissage, généralement, soit on se sent très nul, soit excellent, soit incroyable même. Et c'est vrai, quand la première fois qu'on réussit quelque chose, on trouve que c'est incroyable. Et c'est avec l'expérience et la pratique que derrière, ça devient commun, mais aussi parce qu'on gagne en expertise. Mais bon, il faudrait peut-être que je fasse tout un podcast là-dessus. Avant de rebondir là-dessus, je voudrais juste dire à l'auditoire qui nous écoute que si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas. Vous pouvez réagir en audio sur SpeakPipe. Vous avez le lien qui est en description de l'épisode. Vous pouvez réagir en audio et je répondrai dans le podcast. Par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, je trouve ça... hyper intéressant et vraiment très constructif pour les parents qui nous écoutent. Maintenant, cas concret, parce que là, on parle de communication non violente et on a tous en tête l'image qu'on peut voir très caricaturale sur les réseaux sociaux de... Alors, c'est bien entendu plus souvent la maman qui est représentée. Je sais pas, le petit Enzo est en train de renverser son yaourt sur la table plusieurs fois d'affilée. Et visiblement, c'est quelque chose qui pose problème. Ça peut aussi ne pas poser problème. Hein. J'ouvre la parenthèse, mais ça peut aussi ne pas poser problème. Mais imaginons que là, ça pose problème. Le petit Enzo, 4 ans, renverse l'autre sur la table. C'est très bien que ce n'est pas autorisé. Et donc, on imagine toujours là, cette image un peu caricaturale de la maman qui dit « Mais tu comprends, Enzo, je comprends ton besoin de transvasement, mais là, par rapport à la table et au respect de la vie commune, tu ne peux pas... » Voilà, enfin voilà, cette image un petit peu de l'éducation positive caricaturée qu'on pourrait avoir où il n'y a pas de limite et où on perd un temps incroyable en verbalisation qui n'ont pas beaucoup de sens. Là, concrètement, Enzo, 4 ans, il est devant vous, il renverse le yaourt sur la table, il sait que ce n'est pas quelque chose de cool à faire pendant le repas, du moins, et vous, ça vous donne envie, ça vous énerve. On fait comment en CNV ?
Alors, Enzo, 4 ans. Donc là, petite parenthèse de départ quand même sur avoir conscience en fonction de l'âge de l'enfant. Évidemment, on ne va pas s'adresser de la même manière. Et évidemment, c'est aussi important d'avoir conscience de ce que l'enfant comprend plus ou moins et de sa capacité à réguler ses émotions. Donc, on sait avec les neurosciences sociales et affectives qu'avant l'âge de 6 ans, l'enfant ne régule pas vraiment ses émotions. Donc voilà, il peut y avoir des moments où ça déraille aussi facilement. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, surtout pour tous les moments où je me raconte qu'il fait exprès pour me faire chier.
Je me permets, je vais t'envoyer l'auditoire aussi à l'épisode 101 avec le docteur Alan Kazdin de l'université de Yale, qui rappelle quand même qu'il y a tout un tas de comportements chez le petit enfant, alors pas à 4 ans, mais en tout cas plus jeune, qui vont vraiment nous agacer, mais qui sont des étapes normales du développement et que c'est juste que nous, on ne nous l'a pas appris. Et qu'il faut, ça va passer tout seul généralement et que ça vaut vraiment pas le coup ni en temps ni en énergie de se concentrer là-dessus. Et donc revenons à Enzo, 4 ans, qui renverse son poids de yaourt alors qu'il sait qu'il doit pas. Hein. Il sait qu'il doit pas, Enzo. Hein. Mais là, visiblement, il fait ça exprès pour vous énerver.
En tout cas, Enzo, peut-être que si je lui ai dit plein de fois, il a vu que j'ai une réaction qui est un peu toujours la même ou peut-être je me fâche. Donc il a compris qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de pas convenir. Et en même temps, peut-être que Enzo, lui, il trouve ça vraiment super amusant, en fait, hein, voilà, de faire ça. Et donc il a du mal à faire autrement. Donc moi, je peux, si à ce moment-là j'en ai les moyens, et que ça fait déjà plusieurs fois qu'il le fait, je vais effectivement lui rappeler le truc que là, non, je ne suis pas d'accord. Tout simplement, là, je vais faire très simple, en fait, si je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. À ce moment-là, je vais simplement poser la limite que « Ok, là, je ne suis pas d'accord. » Et donc là, moi, je vais peut-être lui proposer un choix, c'est-à-dire bah, soit c'est moi qui vais tenir le yaourt, ou soit si tu veux tenir le yaourt tout seul, alors tu arrêtes de faire ça. Et s'il n'est pas capable d'arrêter de le faire, et bah, peut-être pendant un temps, je ne vais plus le laisser faire, en fait. Là, c'est tout simple. Vous voyez, c'est-à-dire que le premier coup, je vais lui dire ce qui se passe. « Ah, ok, ça t'amuse de renverser le yaourt, etc. » Et moi, en même temps, par contre, ça ne m'amuse pas parce qu'après, je suis obligée de nettoyer. Hein, c'est là où je vais utiliser des mots très simples. Hein. Je ne vais pas lui parler de la vie commune et tout ça parce que voilà, bon, ça, c'est humoristique, mais c'est vrai que l'enfant ne va pas comprendre. Et puis, trop de mots, on l'a perdu. Donc, voilà, concis avec l'enfant de 4 ans. Et puis, voilà, si je vois que ça recommence plusieurs fois, ben, je vois qu'il n'arrive pas à faire autrement. Moi, je vois que c'est en train de m'énerver. OK, est-ce que ça va nous être utile à tous les deux ? Non. Donc, je vais trouver une autre solution, c'est tout. Et je vais arrêter de le laisser... tenir son yaourt tout seul et le renverser sur la table.
Donc, si je comprends bien, il y a quand même la première étape, c'est de passer par ces fameux OSBD d'abord, en disant qu'on voit qu'il renverse du yaourt, c'est ça, que ça a l'air de beaucoup l'amuser. Si on devait un petit peu, sans se robotiser, mais si on devait un petit peu prendre les étapes.
Ben, si c'est ça que j'ai l'impression, parce que là, vous me dites, c'est genre, il sait qu'il est pas censé le faire au départ. Hein, donc voilà, moi, je suppute que peut-être ça l'amuse. Et ça peut être, selon les enfants, ça peut être voilà, différent. Ben, effectivement, je vais comme faire un mouvement vers lui de, ah ok, ben, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il explore. Il a 4 ans, il découvre. Tout est source d'amusement, en fait, finalement, à cet âge-là. Voilà, donc il fait ça. Et moi, je vais lui expliquer que moi, ça me fait pas rire parce que j'ai pas envie de nettoyer systématiquement après. Hein, donc là, j'ai pas envie de nettoyer après. On est d'accord, c'est pas un besoin humain. Hein, le besoin humain, en tant que parent, c'est souvent que j'ai envie de préserver un peu mon temps et mon énergie. Hein, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc, mais je vais pas lui dire ça parce qu'il va pas comprendre. Donc, je vais lui dire de manière simple qu'effectivement, moi, par contre, ça m'amuse pas et que donc, j'aimerais qu'il arrête de faire ça. Potentiellement, je peux lui donner autre chose avec lequel il a envie de jouer. Si à ce moment-là, il a besoin de, je sais pas moi, de toucher quelque chose ou qu'il a besoin de jouer avec quelque chose, ok, je peux lui faire une autre proposition. Parce qu'il est petit, donc de lui-même, il ne va pas forcément savoir comment gérer son besoin à ce moment-là, hein, comment gérer son émotion et son besoin. Donc, je peux lui faire des propositions. Et puis, bah, effectivement, si ça se répète plusieurs fois, bah, c'est soit qu'il n'est pas en capacité d'entendre ce que je lui dis là, soit que son besoin, il est plus fort que tout, et bah, donc je vais poser une limite. Mais c'est juste que je vais poser une limite concrète et matérielle plutôt que de me dire que je vais m'énerver sur lui ou le mettre au coin. Enfin, voilà, je ne sais pas quelles sont les pratiques de chacun. Parce que ça va pas aider à la compréhension de l'enfant et ça va pas aider à la relation. Voilà. Mais je vais pas y passer des heures.
Alors, ça, je suis bien d'accord avec vous, on n'y passe pas des heures. Ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Au niveau des pratiques, par rapport à cet exemple-là, moi, je suis plutôt pour les pratiques qui respectent les droits de l'enfant. On n'entendra pas ici parler dans ce podcast de l'envoyer dans sa chambre ou autre. Je renvoie encore une fois vers... c'est encore le même épisode, du coup, l'épisode 101 avec Alain Gazdine, où on pourra peut-être chercher, et c'est là où je vais rebondir aussi sur la CNV, où on va pouvoir observer ce comportement qui nous pose problème, et c'est un comportement bien précis qui se répète, et peut-être chercher ce qu'on appelle le comportement opposé positif, c'est-à-dire les moments où Enzo, il mange son yaourt sans le renverser, qui peut-être se produisent une fois tous les 3-4 repas. Et du coup, peut-être qu'on peut aussi passer par les étapes de la CNV pour justement renforcer ce comportement-là, pour dire « Tiens, là, t'as vu, je vois que ton yaourt, tu le maîtrises, il n'y en a pas sur la table, tu prends plaisir à le manger, je prends plaisir à te voir le manger comme ça, et c'est chouette, et ça serait cool que ça recommence. » Voilà, ça peut peut-être aussi être une option à laquelle on ne pense pas tout de suite en France, hein.
Ah ouais, mais ça peut être tout à fait une option à partir du moment où je suis claire dans mon intention que je ne le fais pas pour obtenir forcément un comportement qui va se répéter. Parce que sinon, je bascule dans le truc qui serait un peu de la récompense ou une forme de manière d'obtenir ce que je veux. Et ça, en fait, dans la relation, ça se sent, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, en fait. Et donc, c'est juste de le faire vraiment à partir de l'endroit qui est réel et de dire... « Ah putain, c'est cool, merci !» Voilà, je fais un résumé de ce que vous avez dit. Mais vraiment, merci parce que c'est agréable.
Exactement, et c'est pour ça que je soulignais ça, parce que je trouve que la CNV, du coup, permet justement de se positionner moralement vis-à-vis de pratiques comportementales et de dire, en fait, vouloir faire des choses de manière très calculée de manière très calculée en permanence, ben, un, ça dénature la relation, comme vous l'évoquez, et deux, à un moment, de toute façon, ça marchera pas. Faut être très clair, parce que les enfants perçoivent beaucoup de choses dans le non-verbal, et ça ne marchera pas. Maintenant, imaginons, donc, ok, Enzo, très bien, imaginons Enzo est grandi, ou passons à la petite Sophie, par exemple. La petite Sophie, et ça, c'est un cas dont on me parle régulièrement, la petite Sophie, elle rentre de l'école, elle a l'air pas très bien, elle rentre, je sais pas, du centre de loisirs, elle a pas très bien. Vous savez, ces moments où les enfants un peu plus grands, par exemple, hein, 8-9 ans, imaginons, on aimerait bien qu'ils nous parlent. Et ça, c'est notre besoin à nous. Et du coup, peut-être que ça entre avec un besoin à eux de ne pas parler. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi... est-ce qu'avec la CNV, on peut aller explorer le besoin de l'autre? Et comment est-ce qu'on peut justement essayer de créer la relation là où c'est plus difficile? Vous savez, ce moment où on rentre de l'école, on voit bien que l'enfant va pas bien, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, ou on imagine du moins qu'il s'est passé quelque chose, et on aimerait savoir comment ça va vraiment, mais sans être trop intrusif, quoi.
Alors, donc ça, c'est effectivement les moments où on n'arrive pas à... Voilà, où l'autre en face de nous, il est comme fermé. Et donc, on ne sait pas comment est-ce qu'on va ouvrir le dialogue. Pour schématiser de manière simple, avec la communication non violente, il y a trois mouvements. Il y a l'écoute de ce que je vis moi, l'écoute de ce que vit l'autre, et l'expression de ce que je vis. Et voilà. Hein, voilà, c'est ces trois mouvements-là. Donc, en fait, si j'ai l'enfant qui est comme ça, bah, je peux me mettre en écoute empathique. Et donc, ça veut dire que je vais formuler ce que j'ai l'impression que je vois en lui disant « Ok, je sais pas, quand je te vois là arriver, t'as l'air... Je me raconte que t'es contrarié. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe ?» S'il reste mutique ou s'il dit « Non, non, ça va !» Et bien là, je vais pouvoir, moi... me dire, ah mince, ok, donc là je vois que c'est un peu fermé, je suis peut-être un peu inquiète, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa journée, j'aimerais être rassurée que ça va, quoi, qu'il n'a pas vécu quelque chose de difficile, ok, et là peut-être je vais lui exprimer, lui dire que voilà, il y a quelque chose en moi qui ne croit pas forcément, et qui en tout cas est un peu inquiète de voir que peut-être quelque chose s'est mal passé dans la journée, et qu'en tout cas, bah, moi je suis disponible en fait, et que si à un moment donné, il ou elle a envie, d'écoute, bah, je suis là. Et après, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Et donc, c'est là où je vais de nouveau être en empathie vers moi si c'est difficile. Si j'ai un enfant qui parle peu et que moi, ça me crée beaucoup de stress, et ben c'est comment est-ce que je vais m'offrir de l'écoute à moi ou que je vais demander à une copine ou un copain où je sais qu'il va vraiment m'écouter sans m'interrompre. Voilà, où je vais recevoir du soutien parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où l'enfant il peut être très en intériorité et avoir du mal à nous parler. Ou alors, il va vouloir nous parler à un moment donné où on n'a pas imaginé qu'il va vouloir nous parler, juste au moment où on est en train de faire un autre truc, mais mince. Et c'est le moment où ça va être important de se rendre disponible. Mais ça, on peut pas le prévoir. Donc, c'est écoute et disponibilité. Et donc, écoute de moi déjà et puis écoute de l'enfant quand on sent qu'il y a une ouverture.
Moi, ce que j'entends, c'est du coup, ça sert à... Et c'est quelque chose qu'on retrouve, je le souligne, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le recueil des paroles de victimes de violences, sachez-le. C'est qu'en fait, c'est un petit peu, on ouvre une porte pour que l'autre sache que, de manière inconditionnelle, dans ce qu'il a à nous dire, nous, on est là, on est disponible, mais qu'après, il appartient, il ou elle, de la franchir, quoi, cette porte. Ça doit rester un choix, une liberté, parce que... quand l'expression est forcée, c'est jamais très bon pour la relation finale. Est-ce qu'on se fait un dernier exemple avec mon adolescent ?
Allez.
Mon adolescent, j'ai un gros problème parce que mon adolescent, il passe beaucoup trop de temps devant les écrans. La dernière fois qu'on en a parlé, il m'a bien expliqué que c'était important pour lui parce que socialement, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et que du coup, s'il se coupe des discussions avec ses copains, mais en fait, il se coupe de ses copains. Et que c'est pour ça qu'il passe du temps devant les écrans. Et que moi, je trouve quand même qu'il y passe trop de temps, qu'il n'y a plus forcément de relations en famille, qu'il ne joue pas forcément avec ses frères et sœurs, qu'il passe beaucoup de temps fermé dans sa chambre, que peut-être aussi qu'il y a des devoirs ou du travail scolaire qui en pâtit. Comment est-ce que je peux essayer d'aborder ce genre de sujet ?
Donc là, déjà, sur des sujets un peu chauds comme ça... on va vraiment créer un espace de disponibilité pour parler. Hein, pour tous les sujets chauds, là, on a parlé de choses assez simples. Enfin, avant, il n'y avait pas de crise, j'ai envie de dire. Mais quand il y a des sujets à dispute, c'est important de se rappeler que le moment où on va vraiment régler le truc, ça va être un moment à froid. Parce que sur le moment où voilà, c'est l'engueulade, ça va mener à rien. Donc, les moments à froid... on va vraiment prendre le temps, à un moment donné où on a le temps, de s'écouter. Et donc, d'entendre ce que l'ado a à dire. Donc là, déjà, vous avez dit ce qui se passe pour lui. Voilà, besoin, énorme besoin d'appartenir à un groupe, peut-être en lien avec ses copains, ou peut-être de s'évader, parce que dans ses réseaux sociaux, ses jeux vidéo, la vie est plus kiffante que celle qu'il vit en ce moment dans son quotidien. Voilà, je ne sais pas. Et puis nous, nos besoins à nous, d'être en relation... d'avoir de la coopération dans la famille, c'est ça aussi que j'entends, parce que c'est que j'imagine qu'il y a des choses aussi à faire, des moments de vie, et il se trouve qu'on vit ensemble, donc il y a aussi comme ce partage-là de la vie de famille. Et puis, en tant que parent, il y a aussi un besoin de sécurité quelque part. Parce que, en tant que parent, je peux connaître un peu le danger des réseaux sociaux et des addictions. Parce que les écrans, c'est une réelle addiction. Voilà, hein, ça c'est une réalité. Et donc voilà, c'est ce moment-là à froid où on va le partager. Et où, idéalement, on essaie en famille de mettre en place des accords de famille. Parce que ça assoit, une espèce de trame de fond où on ne va pas tout reprendre tout le temps, au coup par coup, et réavoir des discussions tout le temps sur les mêmes sujets. Donc, c'est important qu'en famille, on prenne l'habitude d'avoir des espaces de discussion collective où, ensemble, on se met d'accord sur les choses qui sont essentielles pour nous. Bien sûr que, de temps en temps, on va remettre à jour ces accords de famille, parce qu'il y a des choses qui évoluent, et l'idée, c'est pas que ce soit gravé dans le marbre et indiscutable, mais on va pas non plus les rediscuter tous les jours. Donc, si on se met d'accord sur quelque chose par rapport aux jeux vidéo, par exemple, on se met d'accord sur un temps, voilà, je sais pas, dans une famille, je sais pas, une heure par jour, ou j'en sais rien, avec son ado, et ça, j'ai pas de conseils là-dessus, chaque famille est différente, chaque personne est différente, mais en tout cas, on se met d'accord sur quelque chose, et on va essayer de s'y tenir. Après, si vraiment ça ne fonctionne pas, on regarde pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais si c'est juste que l'enfant, il est pris dans son espèce d'addiction et qu'il n'y arrive pas, c'est moi, comment, en tant que parent, à un moment donné, je vais tenir aussi mon bout sur le fait que là, il y a des choses qui peuvent ne pas être négociables. Tout n'est pas négociable. Si tout est exigence, ça ne marche pas. Parce que là, je suis que dans mes besoins et pas ceux de l'autre. Mais si tout est négociable, je veux dire, on va tous finir timbrés, en fait. Ce n'est pas possible. On a forcément des essentiels. Et donc là, dans ces moments de calme, j'essaie de discuter avec mon ado j'essaie de mettre en place des accords de famille qu'on va tenir ensemble. Et puis bah après, voilà, avec les moments où à chaque fois, il y aura peut-être des moments où on aura besoin d'en rediscuter. Et pour les écrans, je mets quand même une vigilance que effectivement, c'est quand même, il y a quand même une notion d'addiction derrière. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que du coup, l'enfant n'a pas forcément, même l'adolescent, mais comme nous, hein, adultes, ça peut être le cas aussi, on n'a pas forcément le contrôle. C'est-à-dire qu'on peut vouloir arrêter et ne pas y arriver. Donc là, ça va être aussi un dialogue sur ça, en fait. Ok, tu n'arrives pas à t'arrêter. Comment on t'apporte du soutien par rapport à ça ?
En effet, ça, j'aime bien l'idée de ce temps un peu à froid, comme ça, en zone de conflit, et aussi d'accord et de compromis. Ça fait une belle définition du sujet, avec de chouettes exemples. Merci beaucoup, Caroline Deliry.
Bah, avec plaisir. Voilà, j'espère que ça a donné une petite idée de ce que c'est la communication non-violente. Et puis bah, après, voilà, vous pouvez aller sur Internet... fouiller un petit peu sur les sites officiels et regarder des conférences, lire des livres ou vous former, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin.
Super. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.